Et je voudrais vous parler de l'importance d'apprendre, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, de mettre son don au service des autres. Si nous avons reçu un don, ce n'est pas pour le vivre égoïstement dans notre coin, c'est pour qu'il soit placé au service des autres. À écouter certains évangélistes, il semble parfois que tout ce qui importe, c'est d'amener une âme à Christ, le reste est un peu secondaire. On donne parfois l'impression qu'en allant évangéliser, on va régler tous nos problèmes, tous les problèmes de l'Église et tous les problèmes de la création. Hein? Alors évangéliser, c'est important, bien sûr, mais ce qui vient après la conversion l'est tout autant. Parce qu'une personne sauvée peut retourner au monde et se retrouver dans un état pire qu'avant de s'être convertie. Alors mieux vaudrait qu'elle ne se soit même jamais convertie. La Bible dit que mieux vaut alors qu'elle n'ait pas pris connaissance du salut. Jésus a dit de Judas, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pierre y déclare au sujet de ceux qui rejettent Christ après l'avoir connu, qu'après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Donc c'est important de venir à Christ, c'est important d'amener les âmes au Seigneur, mais il faut qu'on s'assure qu'on ne fait pas comme les pharisiens, qu'on les rend pire que nous. Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens, il leur disait « Vous courez la mer à la terre pour faire un converti, après vous le rendez pire que vous. » Il dit « Vous en faites un fils de la géhenne, c'est-à-dire de l'enfer. » Donc l'après-conversion, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on vit après notre conversion, c'est quelque chose d'important. On peut penser à tous ces chrétiens dans nos églises qui sont devenus plus méchants, médisants et bêtes que ce qu'ils étaient avant de se convertir. Alors ne pensons pas que le fait d'être sauvés va nous garder naturellement. Si nous laissons revenir l'adversité, elle va s'installer cette fois plus fort. Si on n'utilise pas ce que Dieu nous a donné, on va le perdre. Alors, nous sommes appelés à mettre nos dons au service des autres. Il y a plusieurs définitions de servir les autres. Maintenant, j'en vois deux qui m'interpellent particulièrement et qui, on peut dire, englobent les autres. La première, c'est servir les autres, c'est mettre les dons de Dieu qui sont en nous à leur service. La deuxième, c'est que servir les autres, c'est être un instrument de Dieu pour les bénir. On a besoin des autres. On a besoin de plusieurs ministères, plusieurs dons, plusieurs expressions au sein du corps de Christ. Et il ne faut pas penser qu'il y a ceux qui sont importants et les autres qui sont secondaires. Dieu ne nous juge pas par rapport à notre titre, il nous juge par rapport à la fidélité que nous exerçons dans ce qu'il nous a confié. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire celui à qui il a été confié peu, qui est plus fidèle que celui à qui il semble qu'il... il a été confié plus, il aura une plus grande récompense. Ce n'est pas le titre d'apôtre ou de prophète ou d'évangéliste qui te rend plus grand. C'est une place différente, au même point que dans le couple, eh bien, la femme elle fait les bébés, l'homme il peut prier toute sa vie, il ne fera jamais les bébés. Ce n'est pas sa place, ce n'est pas son ministère, il n'a pas à se sentir inférieur, oh Seigneur, ni supérieur. C'est une place différente. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a ceux qui sont importants et les autres qui sont secondaires, de ministères, de dons, d'appels. Parce que ce genre de raisonnement a engendré toute une élite de ministères autosuffisants qui s'est bien vite retrouvée face à ses carences et limites au bout d'un moment. Et vous savez, le travail de l'un peut être réduit à néant s'il n'y a pas l'autre qui passe derrière. Si je peux prêcher autant que je veux, s'il n'y a pas quelqu'un qui enregistre les CD, s'il n'y a pas quelqu'un qui va travailler à les répandre, eh bien, ça va être bien limité ce qu'on fait. Mais alléluia! Moi, je prêche, Michael prêche, d'autres, on l'appelle pour prêcher et enseigner, d'autres, ils ont l'appel plus pratique, pour répandre. Et on va voir les fruits qui sont portés par ces enseignements jusqu'aux extrémités de la terre, à travers le service Afrique et autres. Amen! On peut repartir d'ici, on a peut-être 45 personnes à ce séminaire, on a l'impression que quelque part c'est raté, mais ce qui peut ressortir, et le travail que Dieu peut faire hors de ce séminaire, peut toucher des milliers de personnes. Je crois que le gars qui a amené Billy Graham au salut, je crois que c'est le gars qui n'a pas amené grand monde au salut, mais il n'a pas raté celui qui l'a amené au salut. dans toutes les âmes que Billy Graham il a pu sauver pendant ces années, elles vont être placées à son compte dans ce gars. Donc il est important qu'on ait un jugement juste, ok? Pour qu'on n'essaye pas d'être l'autre, parce qu'en essayant d'être l'autre, on sort de notre appel et de notre don. Donc le travail de l'un peut être réduit à néant s'il n'y a pas l'autre qui passe derrière. Paul il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais l'essentiel c'est que Dieu l'a fait croître. Donc arrêtons de glorifier tel ministère au détriment de l'autre, tel don au détriment de l'autre. D'ailleurs, voyez pour les dons de l'esprit, il y en a des plus spectaculaires que d'autres, c'est vrai, on peut se poser la question, quel est le don le plus grand? Mais le don le plus grand, c'est celui dont tu as besoin à l'instant. Parce que si tu n'as pas besoin de guérison, mais que tu as besoin que ton moral soit relevé par une parole de Dieu, prophétique, à cet instant, le don de guérison, il ne te sert à rien du tout. Il n'est pas important pour toi. Le don de miracle, il sert quand tu as besoin d'un miracle. Donc, il n'y a pas un don qui est plus grand que l'autre. Il y a chaque don qui a sa place au moment où on en a besoin. Il en est de même pour les ministères. Quelqu'un qui a besoin d'un conseil pastoral n'a rien à faire à cet instant de l'exhortation d'un évangéliste pour sauver les âmes. Si quelqu'un a besoin de construire un local pour l'église, l'apôtre ne sera pas spécialement utile. Pour faire la louange, le plus grand prophète qui chante faux ne sera pas à sa place. Donc tout appel est dominant et primordial dans le bon contexte et au bon moment de son expression. Et pour faire l'ensemble du travail prévu par l'Église, nous avons besoin que chacun mette son don au service du corps, ce qui signifie aussi au service des autres. Donc la pensée, lorsque je viens dans l'Église, ce n'est pas comment est-ce que les autres peuvent me servir, mais c'est comment est-ce que je peux servir les autres. Nous avons trop de gens dans les églises qui sont là pour être servis. Donc ils ne sont jamais contents parce qu'ils sont là pour être servis. À plusieurs, on peut faire le travail. On a souvent pensé que nous devions faire beaucoup de choses seuls de A à Z, mais entre A et Z, souvent on a perdu les pédales. On s'est découragé, on s'est épuisé en cours de route. On n'a pas réalisé que les projets sont supposés se réussir à plusieurs. Écoutez, les projets sont supposés se réussir à plusieurs. En général, Dieu ne te donne pas un projet que tu es supposé réussir seul. Élie, lorsqu'il a dit à Dieu qu'il était resté lui seul, il avait sa vision des choses. Et le Seigneur lui a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il y en avait 7000, mais il ne les voyait pas parce qu'il était omnibulé par son ministère. Alors quand vous entendez le bruit, vous claquez des doigts, d'accord? Dieu prévoit toujours un reste, un ensemble de personnes bien disposées qui vont pouvoir ensemble changer le cours des choses et retourner les situations. La Bible ne connaît pas d'autorité puissante et de victoire puissante à long terme d'un seul homme. Tant qu'il est seul, il ne s'en sort pas. Alléluia. Et d'ailleurs, dès le jardin d'Éden, le Seigneur il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Percez. Dans l'idée biblique ici en hébreu dépasse le seul fait d'être avec une autre personne. Elle sous-entend d'être en communion et de travailler, d'aider et d'être aidé par une autre personne. La Bible parle de notion de corps. Elle parle d'une église, une assemblée de personnes dont à qui Dieu permet de réussir, d'arriver au bout lorsqu'ils travaillent ensemble. Certains ministères, églises, mouvements voudraient sauver le monde seuls. Et parfois, ce n'est peut-être pas ce qu'on pense, mais c'est ce que nos actions, ce dont nos actions témoignent. Et au bout d'un moment, le monde, il nous semble bien lourd, au bout d'un moment, à porter. Hein. Moi, à un moment donné, je pensais que je devais trouver la solution à tous les problèmes des gens que je rencontrais sur ma route. Ça vous est jamais arrivé? Il faut à tout prix que vous trouviez une solution. Et quelque part, ça devient de l'orgueil au bout d'un moment. Vous ne voulez pas perdre la face. Alors même quand on vous pose une question, vous n'avez pas la réponse, mais vous répondez quand même. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça devient lourd. Hein? Parce qu'il est plus facile de dire oui aux gens que non. Et on aime mieux dire je sais que je ne sais pas. Et parfois, il faut apprendre à dire je ne sais pas. Il faut apprendre à dire des sous, j'en ai plus. Il faut apprendre à dire, eh bien, peut-être que Dieu il a prévu que quelqu'un d'autre t'aide. dans ce domaine, je ne le sens pas. Amen. Parce que d'ailleurs, quand on essaie de résoudre les problèmes de tous les gens qu'on rencontre, on prend certainement la place d'autres personnes que Dieu a appelées à aider les gens. Ça vous est jamais arrivé de donner à quelqu'un de l'argent? Vous n'aviez pas la conviction, mais le besoin est là et vous répondez simplement à un besoin. Et puis, dans la même journée, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui a besoin de cette somme d'argent. Et vous avez le témoignage du Saint-Esprit que Dieu l'a mis, cette autre personne, sur votre chemin. Mais entre-temps, l'argent, vous ne l'avez plus. Donc, vous avez cédé au sentimentalisme que vous avez pensé être de l'amour et vous êtes sorti du plan de Dieu en essayant de faire bien. Vous savez, le gros des problèmes qu'on a dans l'Église avec les gens, ce n'est pas avec les gens qui veulent faire mal. C'est surtout avec les gens qui veulent faire bien. Et qui souvent veulent faire trop bien. Et parce qu'ils veulent faire trop bien, ils en font trop. Ils reçoivent une pensée de Dieu, mais il faut qu'ils l'enrobent. Dieu, il a dit une phrase, eux, pour la dire, ils en disent 10. Prenez l'exemple d'un déménagement. Telle personne dans l'église a besoin d'être aidée pour déménager. Souvent, on se dit qu'on va essayer de l'aider seul et on va finir épuisé. Mais à plusieurs, ça se simplifie. Un déménagement, vous avez remarqué? Il y a quelque temps, on a déménagé l'église. Eh bien, une personne qui ne pouvait pas être là à cause de son travail a passé son fourgon et a payé l'essence pour le fourgon. Alors déjà, hop, souci en moins. Pas de souci de louer un fourgon, pas de souci de trouver l'argent pour l'essence. D'autres ont pu être là pendant 3 jours de déménagement. Ceux qui ne pouvaient pas les 3 jours sont venus un jour, un après-midi, une heure. Bref, quand un partait, un autre arrivait pour le remplacer. Chacun faisait sa part. On a évité toujours au même de s'épuiser. Donc l'idée, ce n'était pas que chacun soit là pendant 3 jours, parce que tout le monde ne pouvait pas par rapport au travail, par rapport à ses obligations. Amen. Et il faut bien réaliser que Dieu ne nous demande pas d'aller avec la force qu'on n'a pas. Quand c'est le moment de l'offrande, on ne te demande pas des lingots d'or. On te demande de donner ce que tu peux donner. Amen. Et si tu as des lingots d'or, vas-y quand même. Donc ce qui est important, c'est de donner ce que l'on peut, même si c'est peu. Peu de temps, peu d'argent, c'est de faire sa part. D'ailleurs, il y a un message du Saint-Esprit, il insiste beaucoup dans ma vie actuellement, pas plus, pas moins. Parce que plus, c'est aussi désobéir que moins. C'est comme les gens qui veulent aimer les autres plus que ceux qui s'aiment. En général, quand ils veulent aimer les autres plus que ceux qui s'aiment, c'est qu'ils se méprisent eux-mêmes. Oh, il y a un commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit plus. Plus, c'est de la religion. Amen. Et Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice inutile. Il prend plaisir à l'observation de sa parole. S'il dit comme, pas moins, pas plus. Vous savez, dans une collecte, on doit atteindre, par exemple, un chiffre de 1000 euros. S'il y a 980 euros, celui qui ajoute les 20 euros qui manquent, il permet d'atteindre le chiffre. Il a fait moins que d'autres, peut-être, mais sa part ajoutée à celle des autres permet d'atteindre l'objectif. Donc, tout est important. Et Dieu ne nous juge pas en fonction de l'autre, mais par rapport à nous-mêmes. Dieu veut qu'on développe un esprit d'équipe. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 7 que la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Eh bien, regardez une équipe sportive. Il y a les avant, il y a les arrière, il y a les goals, il y a le capitaine, il y a l'entraîneur. Et le succès de l'équipe dépend de chacun des équipiers. On ne peut pas se concentrer sur celui qui marque des buts et dire que c'est lui qui a fait le match tout seul. Parce qu'à l'instant où il tire son but, il y aura eu toute une série de passes du goal aux arrières, au centre, qui auront permis d'arriver à la passe finale qui motive son tir. Alors, souvent, c'est celui-là qu'on glorifie, mais ce n'est pas juste. Parce qu'il a réussi grâce aux autres. Et la Bible nous dit que Dieu, regardez comment Dieu voit les choses, il a choisi les choses faibles pour les mettre plus en évidence. Amen. Alors, vous regardez parfois des serviteurs de Dieu, ils chantent, ils tiennent les micros, et vous dites, waouh. Ça, c'est les choses fortes que Dieu a données à l'Église. Peut-être que ce sont les choses faibles. Et Dieu m'a donné un micro parce qu'il veut compenser ma faiblesse et ma petitesse. Vous avez déjà pensé à ça? Et peut-être que celui qui est encore plus dans l'ombre au départ, il a plus de capacités dans certains domaines naturels que les gens que Dieu il envoie sur le devant de la scène. Donc voyez, dans notre manière de penser, comme raisonne le monde, on aime idéaliser les choses, mais Dieu, il raisonne d'une autre manière. Alléluia! Alors quand un but est marqué, le mérite, il en revient autant au premier qui a tapé dans le ballon qu'à celui qui a tapé en dernier. Parce qu'il y a eu une chaîne. Tous ceux qui ont participé positivement à cette chaîne sont les artisans du but. Vous voulez marquer des buts là en ce moment? Allez. Mais il faut faire des passes. Hein? Il y a trop de gens, ils veulent marquer seuls. Le goal leur passe la balle, ils courent dans tout le terrain, ils arrivent, ils sont étalés. Ils disent, l'Éternel m'a abandonné, il n'a pas permis. Non, il fallait faire des passes. Hein. Le but est également accrédité au compte de l'entraîneur, qui n'a frappé dans aucun ballon. Hein, parce que le facteur de l'entraînement, du conditionnement des troupes, hein, ben, ça joue énormément dans ce qui se passe dans un match. Des choses qui sont dites et faites hors du terrain de foot et du temps du match contribuent à la victoire. Quand nous, on est sur le terrain à faire nos séminaires, les gens qui prient, ils sont aussi importants aux yeux de Dieu dans le monde spirituel que ceux qui sont en train d'effectuer le séminaire. Donc pour sauver une âme, il y a souvent toute une suite de témoignages qui ont précédé le jour où une personne se donne au Seigneur. Et il faut faire attention avec ces questions du genre, combien de personnes avez-vous amené au Seigneur cette année? Tu sais, si tu fais ta part à ton niveau, eh bien, par répercussion, ton témoignage parlé ou en action participera au salut des âmes. D'où l'importance d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour soi, et non pas toujours sous la pression des autres, qui veulent parfois nous faire correspondre à qui on n'est pas. À l'instant où une personne se convertit, eh bien souvent, elle a continué à être travaillée pendant des jours, des mois, parce qu'il lui a été dit par un tel, puis une telle, par l'attitude de cet autre qui l'a fait s'interroger. Et un jour, elle entend le message ou à l'expérience qui s'ajoute à toutes les autres et qui fait basculer la balance. Mais le gars sur le chemin qui lui a donné un court témoignage, il a participé à son salut. Et lui, on dira, cette année, il a mené personne au Seigneur. Mais s'il a fait sa part de chrétien et son témoignage de chrétien, c'est important. La gloire va être donnée à celui qui a été le dernier instrument, mais la réalité est qu'il y a eu une chaîne, un travail d'équipe. Le dernier domino qui scelle la réussite d'un projet de chute de milliers de dominos, il n'a pas plus de pouvoir que le premier ou le millième. Vous enlevez un, il y en a un qui oublie de tomber, et on a un problème sur les bras. Hein. Il y a un projet qui avorte. Tu donnes pour la mission en Afrique ou autre, tu n'iras jamais en mission toi-même, mais grâce à toi, ceux qui vont peuvent sauver, enseigner, guérir. Si Dieu ne nous demande pas à tous de partir, il nous demande à tous de participer aux côtés des autres. Sois un chrétien missionnaire. Oui, mais je ne suis pas appelé à prendre l'avion. J'ai même mal au cœur que si je prends l'avion. Mais ce n'est pas grave, personne ne te demande de prendre l'avion. Ce qu'on te demande, c'est de participer pour que d'autres puissent prendre l'avion en ton nom. Et au nom de l'Église que tu représentes. Donc tu deviens missionnaire. Ce soir, en prenant les enveloppes, vous devenez un missionnaire. Peut-être que le gars qui va recevoir votre enveloppe, il va amener des milliers de personnes au Seigneur, parce que sa vie va être transformée par l'enveloppe. On reçoit des témoignages fantastiques. Moi, j'ai eu un gars, il était missionnaire depuis des années, il m'a dit, j'ai lu ses cours, et je me suis rendu compte que je traitais ma femme n'importe comment, mes enfants n'importe comment, je me suis repenti devant ma famille, devant mon église, on a tout changé. Et le gars, ça ne lui a pas coûté un seul centime. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui ont payé. C'est pourquoi on dit, quand vous envoyez les cours, lundi, ne les envoyez pas en économique. Sinon, la bénédiction vous reviendra en économique. Vous voulez la voie royale? Faites une semence royale. Alléluia! Non, mais est-ce que vous réalisez la vie du gars qui est changé? Peut-être vous avez l'impression que vous ne faites pas grand-chose, là. Et le gars, il va peut-être... Vous savez, il y a certains de ces pasteurs, ils s'occupent de 200 églises, ils ont une école biblique, ils enseignent les cours. Amen. Dans le cadre des séminaires, il y a un pasteur, 13 ans pasteur, sa femme a commencé à appeler ma femme, ils ont vécu des choses fortes, un peu dérangeantes dans leur vie, traumatisantes. Puis ils sont tombés sur un CD, là, je ne sais même pas l'enseignement, je crois, sur la puissance de la grâce, je crois. Ils ont écouté ce CD, ils se sont branchés sur le site, ils ont commencé à suivre les cours, et le gars il m'a envoyé une lettre en me disant, « Pasteur, depuis 13 ans, ce qui m'a évité de couler, ce sont ses cours. » Et là, ils veulent se joindre à l'équipe, travailler avec nous, mais comme des serviteurs. Ce qu'il trouvait fantastique, c'était de voir que dans les séminaires, on pouvait avoir des pasteurs derrière le bar, à servir aux snacks. Alain Sanzé, les pasteurs, Michael, les pasteurs. Il dit, mais moi, c'est ce que je veux faire. On ne veut pas venir avec vous pour exercer en tant que ministère. On veut servir. Et il faut qu'on s'entoure de gens comme ça. Alléluia. Dans ce qu'on va semer, on ne sait pas ce que ça va donner quand ça va pousser. Et Dieu rémunérera celui qui est resté et a participé comme celui qui est parti. C'est pourquoi l'Église, la Bible déclare que celui qui garde les bagages, il doit avoir la même part que celui qui est parti combattre. Cela pour vous dire que si votre don, c'est plus d'être en retrait, ce n'est pas ça qui est important. Faites le bien. Soyez bien en retrait. Pour que ceux qui sont devant, ils puissent travailler plus à l'aise. Moïse sur la montagne, pendant que l'armée combattait dans la vallée, il priait. Mais Moïse, lui, le grand serviteur de Dieu, même, il ne pouvait pas y arriver tout seul. Donc il a fallu qu'il vienne deux personnes pour tenir ses bras. Vous voyez la complémentarité? Ce qui se passait dans la vallée était indissociable de ce qui se passait sur la montagne et vice-versa. Mais le gars sur la montagne, aussi grand serviteur qu'il soit, car on sait que Moïse n'est pas un petit serviteur de Dieu, mais il avait besoin qu'il y ait des gens là pour tenir ses bras. Alors nul ne pouvait débarquer après la bataille et dire « c'est grâce à moi seul ». Vous savez, je n'ose pas imaginer où nous en serions dans le cadre de l'œuvre Souffle Nouveau si depuis le départ, chacun avait pris sa place et l'avait gardée dans une attitude d'humilité de serviteur de Dieu. Mais il n'est pas trop tard avec ceux qui restent et qui le veulent. Alléluia! Donc on est supposé mettre son don au service des autres. 1 Corinthiens 7:7, chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 1 Pierre 4:10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, pas une seule catégorie de l'Église, que chacun de vous, qui c'est chacun de vous? Qui fait partie de chacun de vous? Voilà. Mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, ceux qui ont reçu un ministère et d'autres qui n'auraient pas reçu un ministère, ça n'existe pas dans l'Écriture. Tout le monde a reçu un ministère, simplement... Tout le monde n'a pas reçu le ministère de la parole, le ministère de la prédication, mais tout le monde a reçu un ministère, un appel. Alléluia! Tout le monde est à plein temps. Parce que quand vous allez travailler 8 heures ou 10 heures par jour, même si vous n'êtes pas dans le ministère, comme on dit, pour Dieu, vous êtes quand même dans le ministère. Si vous travaillez à Renault, eh bien vous êtes à plein temps pour parler du Seigneur. Alors, le bon fonctionnement et l'efficacité de l'Église aujourd'hui, et plus que jamais, ça passe par le fait qu'un ensemble de personnes apprennent à mettre leurs dons, qu'ils soient naturels ou spirituels, au service les uns des autres. Et je dirais, pourquoi ne pas chercher même comment nous pouvons faire à la place de l'autre, écoutez ma tournure de phrase, ce pourquoi il n'est pas doué, et où nous le sommes nous. On remarque que la bénédiction ne s'attache pas à chacun de nous dans les mêmes domaines. Vous avez remarqué? Il y a des gens, on dirait, qui font des trucs avec une facilité. Nous, on fait la même chose. Il y a des gens qui bricolent. Dans notre entourage, il y a des bricoleurs, mais c'est formidable ce qu'ils font. Moi, je change une ampoule, je m'y reprends 3 fois. Quoi. Moi, je commence à faire un petit trou dans le mur pour juste passer un truc. au bout de 20 minutes, le trou, il est comme ça, quoi. Le mur, il est prêt à s'écrouler. Et pourtant, j'y ai mis tout mon cœur. J'y ai mis tout mon cœur. Vous pouvez venir dans mon salon, d'ailleurs. Vous allez voir, il y a un mur là-bas. Il y a 3 fils qui passent dans le mur. Ça permet de faire fonctionner les ordinateurs et tout, mais bon, ça a un côté artistique. Je parlais avec un frère l'autre jour, il me disait qu'il avait une facilité naturelle pour trouver des appartements chaque fois qu'il déménageait. Et pendant ce temps, il y avait une autre personne qui galérait depuis des mois pour trouver le sien. Et ma pensée, elle a été à cet instant, tiens, si notre frère qui a des facilités, il se mettait à chercher et faire des démarches à fond, hein, pas à moitié, pour l'autre. Et de son côté, l'autre, il pourrait le soulager dans un autre domaine. Et c'est ce que faisait la première église au niveau des finances même. Ils mettaient au pied des apôtres et on distribuait chacun selon qu'il en avait besoin. Vous imaginez la dimension? Donc le principe là est que chacun dans ses échanges d'ordre spirituel, ou échanges moral, matériel, eh bien, qu'il se retrouve avec ce qu'il soit pourvu à son besoin. Donc dans nos réunions, nous pouvons avoir un temps où nous prenons connaissance des besoins les uns et des autres, puis nous voyons si nous pouvons faire caser les dons des uns avec les besoins des autres. Vous avez remarqué tout ce qu'on peut entasser dans un garage, parfois, ou dans un grenier? Il y a des tas de trucs qu'on ne se sert pas, qui ont de la valeur, et qui pourraient servir à quelqu'un qui, pendant ce temps, il est en train de galérer parce qu'il n'a pas le truc. Et toi, ça dort dans le grenier. Et un jour, tu le jetteras parce que ça ne sert à rien du tout. Alors, on pourrait mettre nos besoins au pied des apôtres, selon le verset cité précédemment, imiter leurs biens au pied des apôtres, et faire des partages selon les besoins. Qui a une voiture dont il ne se sert pas, par exemple? Le gars, il dit, voilà, moi j'ai une voiture dont je ne me sers pas, mais j'y tiens quand même, elle ne sert à rien, mais j'y tiens quand même. Et pendant ce temps, quelqu'un, il n'a peut-être pas de voiture, mais donne ta voiture! Ah, mais ça ne se fait pas. Mais si, ça se fait, tu n'as qu'à ouvrir la Bible. Et tu verras que ça se fait. Puis je peux faire le tour des choses que j'ai chez moi. Peut-être j'ai un ordinateur de plus. Et celui-là, ben, il marche encore. Mais comme j'en ai acheté un de neuf, je ne l'utilise plus. Et puis, il va mourir là pendant les 20 ans à suivre. Alors qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'église qui a besoin d'un ordi. Et il serait content d'avoir un petit ordi qui marche tout juste. Pourquoi? Une fois, on a fait ça, on a fait un tour de table comme ça à l'église de Toulon, mais on peut faire ça peut-être tout à l'heure. Parfois, on peut donner le micro à quelqu'un ou sans micro, et chacun peut exprimer quel est le domaine dans la vie où il est le plus heureux en ce moment, et aussi le domaine où il a une souffrance en ce moment. Je suis sûr que chacun de vous, vous avez un domaine où vous pouvez dire, là c'est super, ah, j'ai la joie du Seigneur, et puis il y a cet autre truc, ça me fait souffrir. Hein, des fois, on a trop de pudeur pour le dire, mais si chacun osait le dire, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui dirait, ben là, je peux soulager dans ce domaine. Ok? Quand quelqu'un dit, moi, je voudrais un mari, quelqu'un dit, ben, je peux soulager dans ce domaine. un mari potentiel, hein? Ah, je dis ça parce que je sens qu'il y en a qui pensent fort, quoi. Donc nous devons réaliser que ce qu'on ne peut pas réussir seul, on peut le réussir avec d'autres. Non pas en faisant tous la même chose, mais chacun sa part dans un même projet. Parce qu'un autre problème qu'on trouve souvent lorsqu'on demande de l'aide, c'est là qu'il faut que les gens apprennent à nous aider selon l'aide qu'on a besoin, pas selon l'aide qu'ils estiment qu'on a besoin. Car un autre problème qu'on trouve souvent lorsqu'on demande de l'aide, ce sont les gens qui proposent de prendre votre place. Au lieu de prendre la leur à vos côtés. Ah, pousse-toi, je vais t'aider, je vais te décharger. C'est pas ça que j'ai demandé, c'est de l'aide que j'ai demandé. Vous voyez la différence? Donc il faut aider les gens selon leurs besoins d'aide, pas selon l'aide que j'estime dont ils ont besoin. Bon, la personne a l'air triste là. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. Moi, quand on m'offre des fleurs, je retrouve le sourire. Alors, je vais lui offrir des fleurs. Mais peut-être qu'elle n'aime pas les fleurs. Tu l'aides selon ta conception à toi. Et pour ça, il faut connaître les gens, il faut connaître leurs besoins aussi. Et pour connaître les besoins, il faut un temps parfois pour les exprimer. Vous voulez qu'on fasse ça? Tout à l'heure, on fait passer le micro. Vous restez assis et chacun de vous, préparez-vous, vous exprimez, voilà, mon sujet principal de joie, c'est ça. Et mon sujet principal de souffrance aujourd'hui, c'est ça. Voilà, hop, vous passez le micro à quelqu'un d'autre. Et puis on note, tout à l'heure on priera pour ça en bloc, mais pendant que chacun partage, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui puisse pourvoir un besoin qui est là, qui est urgent. Ça serait quand même idiot qu'il y ait un besoin urgent là, et quelqu'un souffre inutilement, alors que quelqu'un d'autre pourrait pourvoir, mais comme il ne sait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous imaginez, vous dites, oh, j'ai une grosse souffrance, j'ai un trou de 5000 euros sur mon compte en banque. Et vient quelqu'un, lui dit, ne t'inquiète pas, frère, moi j'en ai de trop. Bon, ça c'est, je suis en train de rêver. Mais on va y arriver à ça. Moi je crois, et je le crois pour cette œuvre Souffle Nouveau, qu'il va falloir rentrer dans des trucs fous. Il va falloir être plus fou. Parce qu'ils étaient assez fous, les gars. Ils vendaient leur terrain, ils vendaient leur maison. Vous imaginez l'amour qu'il y avait là? Et nous, on voudrait les mêmes miracles en faisant 10 fois moins. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Vous me suivez? L'Église est le corps de Christ. De ce fait, chacun de nous, qui est un membre de ce corps, est responsable de permettre à la tête du corps, qui est Jésus, de s'exprimer. En parlant de folie, l'autre jour, je partageais avec les amis, un jour, je vais faire un truc super dans les séminaires. On fait l'offrande, mais au moment de l'offrande, les gens, ils s'avancent et on leur donne quelque chose au lieu qu'ils mettent dans l'offrande. Ça ne serait pas super? Un jour, ils repartent tous avec un billet de 100 euros. Le séminaire d'après, on va avoir du monde. Hein? Mais on ne le fait pas, le séminaire d'après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas toujours suivre le même schéma. Montrer qu'on est là pour bénir, on n'est pas là pour pomper les gens. Et si on passe par, on va passer par des périodes où on va prospérer, on va faire des trucs fous. Et tous les gens sincères qui se seront donné la peine de venir, là, au moment de l'offrande, on leur dit, avancez-vous et gardez vos billets dans vos poches. Alléluia. Et venez et vous piochez, là, vous repartez avec. Et profitez parce qu'on ne le fera pas à tous les séminaires. Non, mais sérieux, moi, voilà, c'est ça ma conception des choses. C'est ça l'Église. Là, c'est glorieux. Là, tu dis, je suis rentré dans l'Église glorieuse. C'est plus l'Église qui m'en dit, quoi. Wouh! Alors, le secours de Dieu pour les hommes n'est pas pressé cet après-midi, ok? Vient du secours que nous décidons de leur apporter. Et quand nous disons que Dieu n'agit pas, écoutez bien, c'est pas exact. C'est plutôt parce que nous n'avons pas rencontré sur notre chemin un homme qui a agi de la part de Dieu. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas entendu Dieu et même quelqu'un qui ne lui a pas obéi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 6, en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc il est normal dans ce corps d'avoir régulièrement ce sentiment que Dieu est loin de nous, même s'il est près de nous en esprit. Donc comment est-ce que Dieu a prévu de manifester sa présence et de nous toucher dans ses corps en se manifestant à travers une personne qui a aussi un corps? Je donne un exemple. Vous priez Dieu pour qu'il pourvoie un besoin urgent. Sauf cas, ce qui peut arriver aussi. Le Seigneur ne va pas faire apparaître un gros paquet de billets de 500 euros sous vos yeux. Il va parler au cœur de quelqu'un pour vous faire un don. Cette personne manifestera concrètement l'amour de Dieu à votre égard et elle est le témoignage que Dieu vous écoute et vous répond. Elle est Dieu en action pour vous. Et on a parfois le sentiment d'être abandonné. La question est, sommes-nous abandonnés par Dieu ou par les hommes qu'il a prévu d'utiliser par Dieu ou par l'Église qui est supposée être une puissance de don, de libération, de l'amour? Est-ce que c'est par Dieu qu'on est abandonné ou par les hommes et par l'Église? Quand on dit Dieu m'abandonne, est-ce qu'on n'est pas là complètement? Eh oui, dans un faux problème, parce que Dieu n'abandonne personne. La Bible dit que sert-il, frère, de dire à quelqu'un qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres, de lui dire, va, chauffe-toi, nourris-toi, et il n'a pas de quoi se chauffer, se nourrir, on ne lui donne pas ce qu'il faut pour ça. Le problème de l'Église est-il que Dieu a trop de choses à faire pour s'occuper de nous, ou que les hommes chargés de nous bénir de sa part sont trop égoïstes, occupés chacun à gérer leur propre intérêt, leur moi dont nous parlions hier soir? Philippiens 2:4, ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Donc, une église, de plus en plus, où de plus en plus de membres prennent conscience de leur place de représentant de Dieu, eh bien, glorifiera de plus en plus son nom en manifestant concrètement son amour. Là, le nom de Dieu est sanctifié. Au lieu de dire « Dieu ne fait rien pour moi, je ne sens pas sa présence, je ne le vois pas agir », demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour quelqu'un d'autre pour qu'il voit Dieu agir dans sa vie par ton intermédiaire. Et ça te reviendra. Arrête de t'occuper de moi, je n'ai pas, alléluia. Et dis-toi que si lui souffre peut-être d'avoir l'impression que Dieu est à 2000 de lui, toi qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il ressente que Dieu est à côté de lui? Et après ça te reviendra à toi. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, Matthieu 7, 12, faites-le de même pour eux. Et Dieu suscitera des gens qui le feront de même pour toi. Dieu il dit à Moïse au sujet de sa mission et de la place qu'il devait tenir pour faire sortir les Hébreux d'Égypte, Exode 7, 1, « Vois, je te fais Dieu. » Il dit à Moïse, « Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Ça me rappelle ma fille Elisa, alors lorsqu'elle était malade. On est passé par une année d'épreuve, et sous l'angle humain, il semblait pendant une période que les choses ne faisaient que se compliquer au lieu de s'arranger. Et même que les prières ne servaient pas à grand-chose. Et Julia et moi, on se levait parfois, on avait l'impression que Dieu il était à 10 000. Hein. Et un jour, Naomi, notre fille, elle a partagé dans un message à l'église comment elle avait vécu de l'extérieur en habitant en Écosse cette période. Elle dit qu'elle aussi, devant ce fort sentiment d'incapacité, elle avait demandé à Dieu où étais-tu ? Où étais-tu pour aider ma sœur ? Hein. Elle a dit que le Seigneur lui a répondu clairement, j'étais à travers tes parents. Et cela, ça l'a apaisé, ça lui a ramené la foi. Et je crois qu'il faut qu'on réalise qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent, et à leur souffrance s'ajoute un fort sentiment d'abandon. Elles cherchent Dieu sans le sentir ni le voir. Est-ce qu'on ne peut pas, à notre humble mesure, être Dieu pour quelqu'un ? Hein ? On n'a pas peur du mot, peut-être, mais Dieu, il a dit à Moïse, « Sois Dieu pour Pharaon, mon représentant, pour Aaron aussi ton frère, qui sera ton prophète. Toi, tu reprends la place de Dieu, et lui, c'est ton prophète. On est des représentants de Dieu. Alors soyez comme Moïse pour quelqu'un, c'est-à-dire manifester de sa part, de la part de Dieu, l'amour dont telle personne a besoin, avant de vouloir toujours prophétiser les mystères de l'Apocalypse. J'ai rien contre. Soyons concrets déjà pour l'aider dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, quand quelqu'un vient pour vous apporter spirituellement quelque chose, assurez-vous qu'il est capable de vous apporter matériellement quelque chose. Sinon, dites-lui d'aller se rhabiller. Alléluia. Parce que si à cet instant vous avez besoin de 10 euros et que le gars il vient vous dire que vous êtes appelé à un merveilleux ministère, mais son don prophétique n'est pas capable de lui faire discerner que vous avez besoin de 10 euros, il grille peut-être les étapes. Est-ce que vous me suivez? Je voulais partager ça aujourd'hui. Il y a tant de personnes qui sont le diable pour les autres. Parce que le même principe, il existe dans l'autre sens. Ils vous emboucanent la vie. En plus, ils vous emboucanent un coup de verset biblique. Ah, Jésus, le diable, il est venu essayer d'emboucaner la vie de Jésus. Le Verbe fait chair avec des versets bibliques. Hein. Moi, je préfère un bon inconverti, bien paillard, là, qu'un chrétien bien religieux qui m'emboucane la vie. Moi, je sais où je vais avec l'autre. Regarde, j'ai un voisin, moi, il est bien paillard. C'est un pécheur, un bon pécheur, OK? Quand il vous parle des péchés qu'il a commis, il a été marin, tout, dans les ports, les femmes, pécheur dans toute sa splendeur, OK? Mais il a fait pour nous et notre famille ce que peu de chrétiens, ils ont fait. Alors je continue à prier pour lui parce que je ne veux pas qu'il aille en enfer. Alléluia. Alors nous, en tant que chrétiens, on n'est pas supposé, se faire la pige par les inconvertis. C'est pas supposé que les inconvertis, ils aient un meilleur témoignage que nous dans la manifestation de Dieu quand même. Ça fait réfléchir. Moi, je veux pouvoir impressionner mon voisin. Lui dire, mais je connais des chrétiens, toi à côté. Mais je ne peux pas lui en citer beaucoup. Tant de personnes sont le diable pour les autres. Bon, quoi d'étonnant qu'on puisse être Dieu pour quelqu'un d'autre, puisque le Saint-Esprit qui est Dieu habite en nous. Est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il faisait les œuvres du Père et il faisait ce qu'il voyait le Père faire? Il refaisait le Père. Nous, on est supposé essayer de refaire le Père à Jésus. Mais je suis sûr que ce message, il vous interpelle fortement. J'espère. Alors, cherchez aujourd'hui plus que jamais à mettre vos dons au service des autres. Au moins, au service de ceux que Dieu vous montre. N'essayez pas de mettre vos dons au service de tous les gens que vous rencontrez. Vous allez perdre ce que vous devez donner à certains en le donnant à d'autres et vous allez prendre la place de quelqu'un qui devait leur donner. On n'a rien à prouver. C'est pour ça qu'on prêche l'identité. C'est important d'être affirmé dans son identité et de dire « j'ai rien à prouver ». Tant qu'on a quelque chose à prouver, on va réagir en fonction du regard des autres. Ok ? Alors ne faisons pas pour prouver quelque chose. Il m'a demandé, il faut à tout prix que je donne. Seigneur, est-ce que c'est lui ? C'est combien ? Ok ? C'est quand ? C'est comment ? Le nombre de l'argent que j'ai perdu pendant toutes ces années sous la pression, comme à l'époque des foyers et autres, l'argent que j'ai perdu de mon propre argent, j'aurais fait construire une maison. J'aurais préféré le donner à d'autres. J'aurais préféré faire avancer mon propre ministère beaucoup plus rapidement. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, quand c'est non dans mon cœur, c'est non. Ça plaît, c'est bon, ça ne plaît pas. Quand on a changé la structure de l'église, eh bien, j'étais prêt à perdre toute l'église. Hein. Mon problème, ce n'était pas, je n'étais pas dans l'insécurité. Je ne suis pas un pasteur qui a besoin de son église pour exister. Hein. Je suis désolé. Mais j'ai besoin du Seigneur pour exister. Et j'ai besoin de cette directive. Et quand Dieu dit « va dans cette direction », ce qui importe, c'est d'être approuvé de Dieu, même si je suis désapprouvé des hommes. Okay? Et sous la pression des hommes, tout ce qu'on peut faire de travers, et tout ce qu'on peut regretter les uns et les autres, qu'on a fait tous les « oui » qu'on a dit, par insécurité. Ah oui, extérieurement, il semblait qu'on était plein d'amour parce qu'on disait « oui ». Ben dis donc. Non seulement on n'aide pas les gens, parce qu'on les entretient dans leur fausse voie, mais après, ils nous font couler avec. Parce que tout ce qu'on leur donne, ce n'est pas multiplié en retour. Parce que ce qui est multiplié en retour, c'est seulement ce qui est donné dans la pensée de Dieu. Alors, cherchez aujourd'hui plus que jamais à mettre vos dons au service des autres. Ce n'est pas toujours en faisant des choses spectaculaires. Ce n'est pas toujours en faisant des choses spectaculaires. Ah frère, je dois mettre mon don au service des autres. Bon, il faut que je parte prier pour les malades. Non, il y a peut-être beaucoup plus urgent là, dans la vie de tous les jours. Peut-être que ton fils, il a besoin que tu lui dises que tu l'aimes et que tu le prennes dans les bras. Ah, mais moi, je cherche quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et Bernard donnait le témoignage d'une personne qu'il a prise dans les bras lors du séminaire de Gré. Et le gars, il est venu prendre le micro, il était complètement chamboulé. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire, se disait Bernard. Ben, tu l'as pris dans les bras. Peut-être que personne ne l'a jamais pris dans les bras. Il a évolué pendant des années dans des milieux chrétiens où il pensait servir Dieu. Et il n'y a jamais un seul chrétien qui a pris la peine de le prendre dans les bras. Et d'autres de leur dire qu'ils avaient de la valeur. Alors, cherchez pas toujours les trucs spectaculaires. Il y a des choses qui sont à notre portée tous les jours. Si on veut les voir, c'est les choses que Dieu nous met devant. Et quand on est trop spirituel, on ne voit pas ce que Dieu nous met devant parce qu'on vise trop haut. Amen. Alors soyez Dieu pour quelqu'un et notre Père sera glorifié. C'est ce qu'on veut faire, glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Alors quels sont les deux